gauche de la ligne, l'eau va à la Méditerranée. Si c'est à droite, ça va vers la mer Morte plutôt. Et voilà, l'altitude de Jérusalem, j'étais un peu surpris, c'est quand même 740 mètres. Enfin, c'est très vallonné, donc ça varie, mais ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le temple qui est à 740 mètres d'altitude. 740 mètres. Nous sommes à 22 km de la mer Morte, qui la mer Morte, elle est à moins 434 mètres, ce qui nous fait une différence de 1174 mètres, ce qui est intéressant. Donc 22 km de distance avec un dénivelé de 1174 mètres. C'est intéressant de se donner une image. Moi, je voyais ça par rapport au Vosges, je voyais tout à fait l'idée. Mais j'ai calculé par rapport à la cathédrale. Cela veut dire concrètement, ça fait le dénivelé l'équivalent de 10 fois la hauteur de la cathédrale sur une distance de 22 km. Donc ça veut dire que ça descend beaucoup. Ce qui explique évidemment qu'il est question de torrents. Ce n'est pas simplement de l'eau stagnante ou qui coule. C'est de l'eau qui descend rapidement. Ce qui explique aussi, vous savez que dans un torrent, l'eau, ça tourbillonne et donc elle se charge en oxygène, oxygène indispensable pour les poissons. Quand vous avez un étang d'eau et que ça ne bouge plus, l'eau ne contient plus assez d'oxygène qui puisse être capté, qui puisse nourrir les poissons. Je regarde Stéphane de temps en temps, s'il ne fait pas de signe si je parle pas assez fort. Ça a l'air d'aller. On continue. Et donc, entre Jérusalem et la mer Morte, il y a ce fameux désert. Évidemment, vu ce que je vous ai expliqué concernant les montagnes, ce n'est pas un désert de sable plat, pas du tout. C'est très, très montagneux, très rocheux, mais c'est un désert dans le sens qu'il y a très, très peu de choses qui y vivent. Alors, dans ce texte, il y a des choses qui sont logiques. Je vous parlais tout à l'heure d'un torrent. Oui, c'est logique, vu le terrain. L'eau qui sort du temple, est-ce que c'est logique? Pas vraiment. Dans Jérusalem même, dans la ville intramuros, il n'y a pas de source. Et pour un temple, il faut beaucoup d'eau. Je pense à Versailles, par exemple, aussi, où... dès qu'il y a des gens qui sont là, il faut de l'eau. Pour un temple, pour faire des sacrifices, il y a des choses à laver, il faut beaucoup d'eau. D'ailleurs, dans le temple, il y avait des citernes construites par Salomon, justement, pour avoir de l'eau. Et là, il ne nous parle pas du tout de citernes, il nous parle d'une source qui sort du temple. Et ce n'est pas très clair, mais qui sort carrément sous l'autel, quelque part, enfin, qui sort quelque part directement de Dieu. Je ressens ça comme ça. Donc, oui, c'est vraiment une source miraculeuse, mais on peut dire ça. D'autant que, oui, Jérusalem, naturellement, il n'y a pas de source. C'est autour, il y en a quelques-unes, mais l'eau est vraiment un problème, a été à l'époque, et elle l'est toujours aujourd'hui. On a des nouvelles technologies pour la récupérer, notamment pour retraiter les eaux usées. Mais n'empêche que c'est vraiment un gros problème. Et là, il nous est parlé d'une source qui sort sous le temple. Alors, il y a une autre chose qui n'est pas très logique. Il est question d'une source qui augmente énormément en volume. Alors effectivement, quand on regarde la Seine à Paris, qui d'ailleurs géologiquement n'est pas la Seine, ça c'est une autre histoire, Mais en tout cas, il y a une source, toujours une source à la base, et puis il y a des affluents qui viennent se rajouter, ce qui explique que ça devient un grand fleuve. Ici, il n'en est pas question. Nulle part, on ne voit qu'il y a quoi que ce soit d'affluent. Et puis, une source, quand l'eau coule, la distance, elle est petite. Il y a toujours un minimum d'évaporation. Il y a aussi de l'infiltration. Donc, la logique voudrait, au contraire, que ça diminue légèrement, plutôt qu'augmenter. Mais non, c'est une source qui vient de Dieu et elle se multiplie, on ne sait pas comment, mais elle se multiplie. Ça, c'est la réalité qui est décrite ici. La source devient un torrent. Oui, ça, c'est logique parce que, effectivement, il y a forcément de la pente, quoi. Enfin, avec le dénivelé qu'il y a, ça ne peut pas descendre tout doucement. Il y a de la pente et donc cela devient un torrent. Mais l'augmentation du volume ne s'explique pas. À quoi cela, ce texte, me fait penser? Alors, je trouve que c'est une très très belle image de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Oui, Dieu veut faire vivre, faire des sources de bénédiction à travers nos vies. Et donc, je vais développer ce point. Je n'exclus pas pour autant une réalisation littérale de ce texte. Et puis, il peut y avoir d'autres compréhensions aussi. Et cela me fait penser à Abraham. Cela me renvoie à Genèse, chapitre 12, versets 2 et 3. J'ai pris un passage où il est question de cette source de bénédiction, mais cette promesse, Dieu l'a renouvelée à plusieurs reprises à Abraham. Alors, je vais lire Genèse 12, versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Alors, quelques détails en plus. La source sort du temple. La bénédiction passe par le cœur d'Abraham. Au verset 4 de Genèse 12, il est dit « Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Dieu l'a béni, Abraham, il a obéi. » La source augmente de volume, c'est ce qui est décrit dans le texte. Abraham, lui, ne verra réellement qu'au ciel ce que le Seigneur a fait. Oui, il a vu des choses. On peut relire tous les textes, tout son vécu. Il a vécu beaucoup de choses. Mais je suis certain qu'il n'a pas du tout réalisé, il n'était pas capable de comprendre à quel point Dieu allait bénir, à quel point il pourra être une bénédiction pour toute l'humanité. Si nous sommes là ce matin, c'est aussi parce que Dieu a béni Abraham et nous sommes aussi le fruit de cette bénédiction. Il ne nous connaissait pas. Un jour, il nous connaîtra. Et ensemble, nous pourrons louer Dieu de ce qu'il a fait. Quelques réflexions concrètes pour nous. Nous cherchons souvent à être bénis par Dieu. Mais sommes-nous conscients que Dieu veut faire bien plus Il veut bénir les autres aussi à travers nous. Il veut faire de nous des sources de bénédiction. Nous avons vu que... Oh, je crois que j'ai oublié de vous dire ça. Oui, j'ai dû sauter quelque chose. Enfin bref, la mer morte, il y a deux raisons pour lesquelles elle est tellement salée. Oui, c'est qu'il y a énormément d'évaporation. Donc ça, c'est l'une des raisons. Et la deuxième, c'est que la mer morte reçoit très peu d'eau pure qui comble cette évaporation, finalement. Comble cette évaporation et aussi qui dilue, tout simplement, quoi, pour avoir plus de quantité d'eau, pour que la proportion de sel diminue. En gros, il y a 10 fois plus de sel en proportion dans la mer morte que dans la Méditerranée, quoi. Voilà ce qui explique que cette mer est impropre à la vie. La mer morte est donc impropre à la vie, entre autres à cause de l'évaporation et du manque d'apport d'eau pure. Nous aussi, nous avons besoin de recevoir cette eau pure qui nous vient directement de Dieu. Nous avons besoin d'être nourris par lui. Nous avons besoin de soigner notre relation avec Dieu, avec le Seigneur. L'évaporation concentre le sel et rend cette mer stérile. Si Dieu nous bénit et que cela ne sert qu'à nous, ben quelque part nous nous asséchons aussi. Nous ne sommes pas simplement appelés à recevoir les bénédictions de Dieu, nous sommes appelés à être des tuyaux, tout simplement des tuyaux. Des tuyaux au travers desquels passe cette bénédiction. En passant, la bénédiction nourrit aussi le tuyau. Ce n'est pas le tuyau lui-même qui est la vie, mais c'est ce qui passe dedans qui la donne. Au début de ce message, nous avons vu aussi que l'eau, elle traverse un désert. Un désert. Notre vie, quelquefois, nous semble être un désert. Nous voyons souvent tous nos défauts. Certes, Dieu veut le transformer. Lorsque son action passe au travers de nous, il nous transforme. Et il veut nous utiliser, quelles que soient nos limites. D'ailleurs, qui connaît mieux nos limites que lui-même, lui qui nous a créés, lui qui nous connaît vraiment mieux que nous-mêmes. À travers la Bible, nous voyons beaucoup de personnes qui avaient des limites. D'ailleurs, Abraham, il avait 75 ans quand il a reçu cette promesse. Et voilà, 75 ans, ça veut dire concrètement pour moi, ça fait encore quelques années avant, j'étais plus jeune. Dans la Bible, nous voyons Job, par exemple, qui était malade. Ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Alors, j'aimerais vous laisser quelques questions. Est-ce que nous avons autorisé Dieu à nous utiliser, quelles que soient nos faiblesses, quel que soit notre état? Est-ce que nous sommes conscients qu'il veut le faire? Si nous sommes âgés, si nous sommes malades, Dieu peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Peut-être effectivement nous ne verrons pas comment il le fera. Abraham n'a pas tout vu ce qu'il a fait. Mais par contre, Dieu peut nous utiliser d'autant plus facilement que nous lui demandons de le faire. Ce n'est pas tellement ce que je veux faire pour Dieu dont je veux parler ce matin, mais plutôt ce que Dieu veut faire à travers moi. Ce n'est pas tout à fait la même chose et la deuxième version est vraiment beaucoup plus belle parce que Dieu fait les choses d'une manière beaucoup plus complète que ce que je peux faire. Mais souvent, effectivement, ça peut être une source de stress de faire confiance. Et je sais que j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre à ce sujet encore. Alors, je vais juste vous raconter ce que j'ai vécu cette semaine, une petite anecdote, quelque chose que je n'avais pas du tout calculé. Mais voilà comment Dieu peut nous utiliser et voilà comment ça peut être un encouragement. J'étais dans le TGV, j'avais pris un livre, je ne sais même plus le titre, enfin c'est un livre chrétien d'un auteur, d'un théologien, et enfin, vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis je lisais ça et j'arrivais presque sur Lyon et peu avant, quelqu'un s'était assis à côté de moi parce que la place était libre, j'étais très content qu'elle soit libre. Et comme ils somnolaient à moitié, je ne voulais pas le déranger pour aller aux toilettes, mais bon, je me suis dit, là, j'arrive à Lyon, il faut quand même que j'y aille, d'autant plus que j'avais 40 minutes de marche pour aller à l'hôtel, donc je me dis, ça va être beaucoup plus simple. Donc, j'ai laissé mon livre, je suis allé aux toilettes et je suis revenu, et puis quand on arrivait dans 5 minutes, je me suis dit, je ne vais pas déranger la personne, je vais préparer mes affaires, je vais récupérer mon livre. Et puis là, celui qui était à côté de moi, il m'interpelle, il me dit, est-ce que je peux lire ce que vous avez, le résumé de du livre, de ce que vous avez là, derrière? Et je dis, oui, bien sûr. Et donc, il me dit, mais j'aimerais bien l'acheter. Je lui dis, mais vous savez où l'acheter? Éventuellement, je peux même vous l'offrir. C'est avec plaisir. D'autant plus que je l'avais déjà lu, c'était une deuxième fois que... Et puis il me dit, mais il avait déjà regardé sur Internet, il savait déjà où le trouver, et ce qu'il a lu derrière, il avait déjà lu le résumé sur Internet. Et voilà, donc nous arrivions sur Lyon, la conversation ne pouvait pas aller plus loin. Quelque part, c'était un côté frustrant, mais Dieu m'avait utilisé, enfin voilà, je n'avais rien fait, et c'est lui qui a fait. Et puis, voilà, tout ce que je pouvais faire, je voulais lui offrir un livre, il n'en voulait pas, il n'était pas question de lui forcer la main, je lui ai proposé, le reste lui appartient. Et après, c'est tout simplement le confier à Dieu, qu'il continue son œuvre. Et c'est quelque part, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui utilise. Et le plus difficile dans tout ça, au final, c'est de se dire, je voulais faire quelque chose, je voulais lui donner le livre. Mais il préférait l'acheter. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est me confier en Dieu et le remettre à Dieu. Et c'est le plus important. Mais quelque part, humainement, on a besoin de surmonter une petite frustration qui n'est pas juste. Mais c'est ce qu'on dit souvent maintenant, c'est le lâcher prise. Et nous avons tous besoin de lâcher prise. Et ce que j'ai dit dans tout ce message par rapport à la source de bénédiction, je l'ai plutôt axé sur une personne, mais c'est vrai en tant que personne, évidemment, mais c'est aussi vrai en tant qu'Église, de voir comment Dieu utilise. Mais le cœur, c'est vraiment que c'est Dieu qui est au centre, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit. Et si nous sommes des tuyaux à travers lesquels l'œuvre de Dieu peut couler, nous pouvons être une source de bénédiction, mais il est absolument essentiel d'être raccordé à la source et de veiller à la propreté du tuyau. Je vous invite à passer un temps de prière. C'est Cédric qui va prendre la suite et qui va gérer ce temps de prière. Merci à tous ceux aussi sur Internet qui m'ont écouté. J'espère que vous avez pu comprendre.